Ouais, salut Daniel, et puis salut l'équipe. Ben voilà, je suis sur mon chantier, dans le sud, il fait beau, il y a du vent, et puis voilà, la saison va redémarrer, donc je vais vous écouter tous les après-midi, et puis vous allez sûrement me passionner, et puis m'énerver, et puis je vais me sentir frangin de certains auditeurs, et puis complètement éloigné des positions d'autres, quoi. Et puis voilà, ben tout ça va recommencer en rythmant un petit peu mes après-midi de boulot, donc voilà, comme ça va démarrer dans quelques minutes, et ben c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil. Salut.
J'appelle René, je remonte dans le Nord. J'ai entendu les deux collaboratrices, comme dirait David Pain du MEDEF tout à l'heure, qui nous racontent que les patrons ont fait des efforts. Qu'en est-il des efforts qui ont été faits par le fils Lagardère, par le fils d'Assaut, et j'en passe, et des meilleurs? J'ai trouvé ça complètement mais aberrant. Est-ce qu'elles sont conscientes de ce qu'elles disent? Voilà. Allez, il faut continuer le combat, Daniel. Salut.
Oui, bonsoir. Moi, j'habite La Réunion. Écoutez, je viens d'entendre l'émission de Daniel Mermet, pour mon plus grand malheur, puisque ça fait 2 mois que nous avions Pénélope.com, qui était une excellente émission. Là, ce ne sont que bêtises, ramassis de bêtises. Sarkozy par-ci, Sarkozy par-là. Je vous rappelle quand même que la gauche a été au pouvoir pendant des années. Et qu'a-t-elle fait? Posez-vous bien la question, surtout. Et regardez où en est le Parti Socialiste, qui se bouffe le nez sans arrêt. Au moins, la droite fait des choses, fera des choses. C'est peut-être pas forcément parfait, mais toujours critiqué, c'est pas terrible non plus. Alors, vive Pénélope.com. J'espère qu'elle reviendra rapidement et que Mermet sera virée de France Inter.
Salut, suite à votre émission sur l'université du MEDEF, j'ai entendu une émission l'autre jour qui parlait de ce sujet et qui disait que il y avait des études qui tendaient à prouver qu'effectivement il y avait un problème culturel en ce qui concerne les Français vis-à-vis des entreprises. Quand on leur posait la question s'ils avaient une bonne opinion des entreprises en France, c'était plutôt non. Et quand on leur posait la question, est-ce que vous avez plutôt une bonne opinion de votre propre entreprise, c'était plutôt oui. Donc il y a vraiment, une idéologie française anti-entreprise, anti-patron, quoi. C'est quelque chose de particulier à la France. Alors je sais pas, les Français sont frondeurs, ils aiment pas être salariés, ils aiment pas être soumis, etc. Mais bon, si les Français sont frondeurs, il faut leur dire que le capitalisme n'est pas un système obligatoire. Hein. On n'est pas obligé de participer. Hein. On peut revenir à la terre et faire du troc avec ses voisins. C'est pas déshonorant, ce serait même plutôt mon truc à moi. Et on peut aussi créer des entreprises en autogestion avec des copains, avec égalité de salaire et égalité de décision, comme vous avez su en donner des exemples dans votre émission. C'est pas obligatoire, le capitalisme. Hein. Bon, genre, on peut vivre à l'écart de ça et très bien. Puisque les Français n'aiment pas les entreprises ni les patrons.
Rendez-vous au repère de Monchy-Breton entre Saint-Paul-Saint-Amanoise et Arras, dans le Pas-de-Calais, chez Tartous et compagnie, jeudi à 19h. Et j'avais une petite phrase de M. Sarkozy prononcée le vendredi 24 août, je ne sais pas trop où, que j'ai eue dans le Canard enchaîné. Chaque fois qu'une personne est poursuivie ou maltraitée dans le monde, pour moi, elle est française. Parce que la France est la patrie des droits de l'homme. J'aimerais bien qu'ils mettent ça à exécution, hein. Allez, on peut peut-être espérer, hein. Au revoir.
Mais oui, on peut espérer, chers AMG. Auditeurs modestes et géniaux, et bien voilà, c'est reparti, là-bas si j'y suis, vous avez compris, les repères de là-bas si j'y suis repartent aussi, de mettre des petites annonces dans la boîte vocale pour dire que, voilà, c'est reparti, on se retrouve. Une petite devinette pour commencer aujourd'hui, il s'autorise tout et c'est à ça qu'on le reconnaît. De qui s'agit-il? Eh bien, je vous laisse deviner, mais ceux qui trouvent qu'il parle trop et qu'on en parle trop, eh ben ils vont pas être à la fête aujourd'hui parce qu'on va encore parler de lui le 26 juillet dernier à Dakar au Sénégal devant les étudiants sénégalais. Le président de la République française a prononcé un discours qui a fait beaucoup, beaucoup de vagues. En Afrique, quelques-unes de ces vagues sont venues jusqu'ici, c'est vrai, mais de petites vagues. Et puis, c'était l'été, et puis c'était les vacances, et puis on va pas se fâcher, vous savez comme on est, nous, du côté des médias. Alors, on a eu l'idée quand même de revenir sur ce discours qui, je le répète, a déchaîné des réactions en Afrique. Tout l'été, vous avez entendu sur Inter une excellente émission qui s'appelle L'Afrique Enchantée avec Guillaume Thibault et Solo Soro. Bah, ça va être un petit peu la continuation de ça, sauf que le titre, ce serait peut-être L'Afrique Désenchantée. Mais on va retrouver d'ailleurs Solo Soro aujourd'hui parce que vous vous demandez peut-être parfois d'où vient la tragédie africaine. Vous vous dites, de la mondialisation libérale a peut-être quelques responsabilités, des politiques imposées par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ou bien ne serait-ce le poids de la dette, ou encore l'héritage empoisonné du colonialisme, les séquelles de la traite négrière. Ou alors peut-être, mais ça c'est peut-être, le néocolonialisme français depuis 45 ans, qu'on appelle la France-Afrique, que soutient les entreprises prédatrices françaises et les tyrannos locaux corrompus, ne serait-ce pas non plus plutôt tout simplement dû à la nature profonde de l'homme africain, hein, si c'était ça. Et bien toutes ces questions que vous vous posez, que nous nous posons, on va en avoir une réponse aujourd'hui, et une réponse qui sera donc critiquée avec Anne-Cécile Robert du Monde Diplomatique, qui publie ce mois-ci un papier qui s'appelle « L'Afrique au Karcher » avec Solo Soro dont j'ai parlé, et son compère Vladimir Cagnolari, les deux fondateurs, les créateurs de l'excellente émission « L'Afrique enchantée », avec Achille Bambé, qui est professeur d'histoire et de sciences politiques à Johannesburg, et Elikia Mbokolo, qui est aussi, lui, un universitaire et un historien africain. Voilà, pour essayer de comprendre quelque chose à quelque chose. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Un message à propos du repère des AMG de Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis. Nos réunions reprendront le mercredi 12 septembre de 18h30 à 21h. Même lieu, c'est-à-dire au Ratatam. Le bar se trouve dans la rue du Capitaine Dreyfus, ceci grâce à l'aimable accueil de Christophe. Reprise à compter donc du 12 septembre 2007, le rythme de ces rencontres sera mensuel, à savoir le second mercredi du mois. Bien cordialement à tous et à bientôt. Au revoir.
Salut Daniel, salut toute l'équipe de la base où j'y suis, toujours au regret de ne pas pouvoir vous écouter. Toujours enseignant à Marseille, toujours avec mes petits loups, mes petits bouts, mes crapulons, comment je pourrais parler de ces gamins qui me font vivre. Alors je viens de recevoir quand même une lettre là qui vient du ministre, notre cher ministre, sur la rentrée. Je vous lis le message. La rentrée scolaire est un des moments les plus forts de la vie républicaine. Elle exprime la cohésion nationale autour d'une même volonté de placer le savoir au cœur de tous les progrès de notre société. Bravo, merci. Je crois qu'ils ont un peu oublié ce que ça voulait dire, que le savoir, ils sont plutôt dans la compétence, dans la compétition. Hein. Elle symbolise la continuité entre la mission éducative des familles et celle de l'école. Bonjour. Alors la contribution des familles à l'équipement matériel des enfants participe pleinement à cette mission éducative. Et on y vient, car c'est sur la liste scolaire, où il dit que c'est bien sûr bien trop cher, etc., alors qu'il augmente, on ouvre la pompe Afrique, il augmente l'allocation de la rentrée scolaire, et il dit en fin de message, soucieux de prendre part à cet effort collectif de protection du pouvoir d'achat, ah bon, j'ai rencontré cette semaine l'ensemble des acteurs de la grande et moyenne distribution, patati patata, soi-disant pour nous envoyer des messages, des produits moins chers. Voilà, à bon entendeur, salut. Bon, si on veut lui téléphoner à ce cher ministre au 01 55 55 10 10, ciao, bye bye.
Bonjour, on est la première semaine du mois. On se retrouve comme d'hab dans le bocage nord de Sèvres, au petit clavé chez Léa à 19h, vendredi 7 septembre. Salut.
Jeunesse d'Afrique, je ne suis pas venu vous parler de repentance. Je suis venu vous dire que je ressens la traite et l'esclavage comme des crimes envers l'humanité. Je suis venu vous dire que votre déchirure, et votre souffrance sont les nôtres et sont donc les miennes. Je suis venu vous proposer de regarder ensemble, Africains et Français, au-delà de cette déchirure. L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur.
Voilà un extrait de ce long discours qui faisait 50 minutes, donc, en présence de ces universitaires, de ces étudiants africains à Dakar, au Sénégal, le 26 juillet, et on entend vibrer quelque chose à travers ces voix. Qui est responsable la souffrance des esclaves, des victimes de la traite négrière, des colonisés? Eh bien, le président de la République ne le dit pas, puisque l'humanité tout entière partage cette souffrance, et que lui-même la partage. Sauf que lui-même, c'est pas seulement Nicolas Sarkozy, bien sûr, c'est le chef de l'État, d'un État qui a sa part de responsabilité historique dans la colonisation et qui doit une partie de son actuelle prospérité, actuelle, je dis bien prospérité, à la traite négrière. Ainsi, y a-t-il là une opération de renversement et une certaine forme de négation, de négationnisme. Ce genre d'argument, ce que je viens de vous dire là, eh bien, c'était dans toute la presse africaine, dans toutes les têtes africaines, dans celles, en tout cas, des étudiants qui étaient là, et ça a été une énorme indignation, une colère et une stupéfaction aussi d'entendre ces choses-là, ce jour-là, à Dakar, où nous retournons à l'instant même. Salut, c'est Daniel Mermet, la base où j'y suis, l'Afrique désenchantée.
Flight number 2, arriving from...
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. L'Afrique a fait se ressouvenir à tous les peuples de la Terre qu'ils avaient partagé la même enfance. L'Afrique en a réveillé les joies simples, les bonheurs éphémères, et ce besoin auquel je crois moi-même tant, ce besoin de croire plutôt que de comprendre, ce besoin de ressentir plutôt que de raisonner, ce besoin d'être en harmonie plutôt que d'être en conquête. Ouvrez les yeux, jeunes d'Afrique.
L'Afrique au Karcher. Et Anne-Cécile Robert est là. Je voudrais savoir tout de suite, Anne-Cécile, qu'est-ce qui vous a, vous, intéressé dans ce discours du président de la République française? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce qui vous a séduit?
Ce qui est étonnant dans le discours de Nicolas Sarkozy, c'est le mélange de tout un tas de choses qui n'ont pas la même valeur. Et on trouve dans son discours des petites vérités sympathiques, qui méritent d'ailleurs d'être rappelées, comme M. Sarkozy nous apprend ou nous rappelle que l'homme africain est comme tous les autres hommes de la planète, donc c'est déjà pas mal. On est content de l'apprendre. Mais à côté de ces petites choses sympathiques, il y a de gros mensonges et de grosses contre-vérités et des jugements qu'on croyait complètement sortis de l'actualité, qui nous ramènent au temps de l'ethnologie coloniale. Et M. Sarkozy décrit une Afrique qui n'existe pas d'ailleurs, qui est complètement fantasmatique, où les gens sont vivent complètement dans le monde rural. Il n'y a pas de ville en Afrique. Ils parlent, ils n'écrivent pas. Ils n'ont pas d'histoire, il n'y a pas d'aventure. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a rien. Et c'est complètement ahurissant d'entendre ça. D'ailleurs, il n'y a que au sujet de l'Afrique que quelqu'un se permettrait de dire des choses aussi énormes.
Pourtant, l'intention était bonne. Il vient voir nos amis africains, il vient à Dakar, il s'adresse à un aréopage d'intellectuels, de chercheurs, d'universitaires, puisqu'on est dans une université, et pendant 50 minutes, il parle à des amis. Et à des amis, on dit ce qu'on a sur le cœur, on dit ce qu'on pense. Alors il commence quand même longuement à parler de la colonisation. Et il parle de l'esclavage. Et il dit une chose formidable, c'est que c'était mal, l'esclavage. Ensuite, la colonisation, il dit que c'était pas bien. Même si il faut savoir tourner la page aujourd'hui, il dit quand même que c'est pas bien et que ça a hypothéqué peut-être un peu le développement de l'Afrique. Il reconnaît ça quand même.
Oui, il fait un petit détour par l'histoire, mais tout ça c'est pour évacuer la colonisation. En fait, il l'évoque pour dire c'est fini, c'est le passé, la colonisation c'était pas bien, mais ça n'a rien à voir avec le présent. Voilà, maintenant, allez-y. Et en disant allez-y, Sarkozy fait comme si les pays africains étaient à égalité de force avec les pays occidentaux. Il leur dit prenez-vous en main. Il fait comme si les dés n'étaient pas pipés. Comme si dans la mondialisation, le Mali pouvait entrer en compétition avec le Japon, avec l'Allemagne. C'est d'une incroyable violence. Effectivement, comme vous dites, Daniel Mermet, il dit « Je suis votre ami, donc je peux vous dire la vérité ». Mais c'est incroyable de dire ça, parce que il s'autoproclame tout seul un ami de l'Afrique. En général, l'amitié, c'est dans les deux sens. Donc il faudrait quand même savoir si des Africains qui trouvent que Sarkozy est leur ami...
Bah, Omar Bongo, oui, il était chez lui le lendemain et c'était son ami.
C'est ça, voilà. C'est ça les amis de Monsieur Sarkozy en Afrique. C'est des gens qui sont pratiquement universellement détestés des populations africaines. Et c'est une partie d'ailleurs des intellectuels et des jeunes écrivains africains, des étudiants, des professeurs, qui ont dit à Sarkozy, mais arrêtez de fréquenter tous ces vieux dinosaures qui ne représentent plus qu'eux-mêmes, qui sont des gens du passé, et parler à la Afrique qui vit, à ces nouvelles générations, parce que l'un des drames de ce discours de Sarkozy, c'est qu'il voulait marquer un changement, une rupture dans les relations franco-africaines, mais en fait il a complètement, il s'est inscrit dans une continuité. Et on trouve sous des paroles cyniques des choses qu'on entendait déjà sous Mitterrand ou sous De Gaulle. Il y a une très grande continuité en fait. Il y a un traitement particulier de l'Afrique qu'on retrouve chez Sarkozy, mais qui est très ancien en fait.
Ouvrez les yeux, jeunes d'Afrique. Et ne regardez plus, comme l'ont fait trop souvent vos aînés, la civilisation mondiale comme une menace pour votre identité, mais la civilisation mondiale comme quelque chose qui vous appartient aussi. Dès lors, vous reconnaîtrez dans la sagesse universelle une part de la sagesse que vous tenez de vos pères et que vous aurez la volonté de faire fructifier. Alors commencera ce que j'appelle de mes voeux la renaissance africaine.
Alors avec nous, pour commenter ce discours de Sarkozy, il y a deux garçons que les auditeurs de France Inter aiment et connaissent. Soloso, qui était là tout l'été sur Inter, salut.
Salut Marmé.
Et puis Vladimir, qui n'était pas là cet été sur Inter, qui était remplacé, mais qui est venu aujourd'hui pour commenter ce discours. Soloso, comment t'as apprécié ce discours?
Tout à l'heure, t'as posé une question en disant, mais certainement que les Africains se sentent amis de Sarkozy. Moi, je réponds tout de suite, ce n'est pas mon ami. C'est clair qu'il ne peut pas être mon ami avec un discours tel que celui qu'il a prononcé à Dakar, à cause de toute l'ignorance qu'il a de l'Afrique contemporaine. Il a ignoré cette jeunesse des villes quand il leur dit de ne pas se laisser voler leur histoire. Mais cette Afrique urbaine vit son quotidien, sa contemporanéité, et va ne s'attarde pas sur la musique traditionnelle que moi j'ai écoutée, va exprimer ses besoins, ses envies, ses fantasmes, ses rêves à travers une expression contemporaine. Et ça, Sarkozy n'a pas compris.
Jeunes d'Afrique, vous voulez le développement, vous voulez la croissance, vous voulez la hausse du niveau de vie. Mais le voulez-vous vraiment? Voulez-vous que cesse l'arbitraire, la corruption, la violence? Voulez-vous que la propriété soit respectée, que l'argent soit investi au lieu d'être détourné? Voulez-vous que l'État se remette à faire son métier? Si vous le voulez, alors la France sera à vos côtés pour l'exiger. Mais personne ne le voudra à votre place.
Il
il paraît quand même que c'était assez trié sur le volet. Il y avait des jeunes Africains à Dakar qui étaient tout prêts à manifester contre la présence de Sarkozy, qui ont été tenus à l'écart. Donc c'était pas toute la jeunesse, c'était une jeunesse universitaire bien sage.
Non, non, mais on imagine bien que, au-delà du petit cénacle plus tranquille qui écoutait le discours, il espérait une plus large diffusion. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, non, ce que je veux dire, c'est que, et pour aller un peu dans le même sens que ce que dit Solo, c'est que il est censé s'adresser à la jeunesse africaine, mais s'il y a une jeunesse qui est en plein dans le tourbillon de la modernité et de la mondialisation tout ensemble, c'est bien la jeunesse africaine, je veux dire.
Tout à fait.
Le téléphone portable, l'informatique ont fait les mêmes révolutions mentales là-bas, et les jeunes de Bamako, les jeunes de Kinshasa, mais ils sont beaucoup plus proches des jeunes de Paris, finalement, que de leurs aïeux du village. Donc, on leur dit, non mais n'écoutez pas les sirènes de la tradition qui voudraient vous retenir hors de la modernité. Refusez cette idée de pureté. Mais je ne sais pas de quelle idée de pureté on parle. Moi, j'ai jamais entendu ça. Enfin, je me balade de temps en temps en Afrique quand même, et j'ai jamais entendu cette espèce de conservatisme forcené de la part de la jeunesse spécifiquement. Après, qu'il y ait des vieux tontons, solo, hein, des patriarches qui, eux, s'arc-boutent davantage sur les traditions parce qu'ils ont l'impression que tout part à volo, ça existe aussi.
Ceux-là sont là, effectivement.
Mais c'est pas à eux que le discours s'adressait, non?
Finalement, c'est pas adressé à ces anciens. Et cette jeunesse, quand il dit ce que veut l'Afrique et ce qu'il faut lui donner, c'est la solidarité. Il pense que on est solidaire quand on pratique l'immigration choisie en allant prendre les cerveaux en Afrique pour autoriser ceux-là à venir en France. C'est ça la solidarité, c'est ça qu'il veut donner à l'Afrique. Moi, je ne vois pas dans ces actes-là de la solidarité. Il continue de piller l'Afrique comme on la pillait au 19e siècle pendant l'esclavage, pendant la colonisation.
Sauf que là, c'est la matière grise maintenant.
Tout pillé. Sauf que la matière première est autre chose. C'est
une matière grise. On continue de piller la matière première.
Voilà, la matière première.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles.
Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l'enfance. Le problème de l'Afrique... Le style est très répétitif. Parce qu'il faut que vous compreniez, les gars. Hein. Les Africains doivent comprendre. Donc on martèle. Ça dure 50 minutes. Hein. Et alors, le problème de l'Afrique, c'est que trop souvent, elle juge le présent par rapport à une pureté des origines. C'est ce que disait Vladimir. Des origines totalement imaginaires et que personne ne peut espérer ressusciter. D'où viennent ces certitudes? Enfin, on sait qui a écrit le discours, Anne-Cécile.
Oui, c'est Henri Guénaud qui normalement connaît très bien l'Afrique et qui, paraît-il, ambitionnait d'écrire pour Nicolas Sarkozy un discours de l'envergure de celui du général de Gaulle à Brazzaville à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on est vraiment loin du compte et on se demande où Guénaud est allé chercher ses références, parce que là, ça sent carrément la naphtaline. C'est-à-dire, plus personne n'ose dire des trucs pareils depuis au moins 50 ans.
L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretué en Afrique, au moins autant qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont désenchanté l'Afrique.
Concernant la traite négrière, concernant aussi la colonisation, il en parle évidemment sur deux registres différents, que les hommes d'Afrique, il explique d'ailleurs que quand il dit les hommes, ça veut dire les femmes aussi. Il explique bien aux Africains qu'il ne faut pas confondre. Hein, bon. Alors, il explique ça, et il explique que quand ces hommes donc sont persécutés, eh bien c'est toute l'humanité qui est persécutée, et donc lui aussi, Nicolas Sarkozy se sent persécuté. Donc là, il y a une empathie compassionnelle qui ne doit pas vous pouvez pas ignorer.
Ouais.
À quelle vous devez être sensible, non? Même pas ça.
C'est le discours. Enfin, sa politique, elle est celle de la rupture. Et il vient avec... Peut-être que son conseiller a dû lui dire que la répétition est une vertu pédagogique. C'est pour ça qu'il dit... Ce dont l'Afrique a besoin, ce que je suis venu vous dire, bref, et inconsciemment, il reproduit le schéma du paternalisme. Pour moi, j'ai vécu comme un discours paternaliste. Je viens vous apprendre la vérité, je viens vous donner la vérité. Et je fais abstraction de ce que vous en pensez, de ce que vous voulez, quel est votre besoin d'aujourd'hui, quel est votre regard sur le monde, la mondialisation, quand les Américains subventionnent les producteurs de coton dans leur pays et que le Malien ne peut plus être compétitif sur le marché du coton. Et Sarkozy n'en tient pas compte. Et fait comme disait Anne-Cécile, comme si tout le monde avait le même, on avait le même niveau de rapport de force. Mais c'est une ignorance intégrale de tout et doublée de ce discours paternaliste. Et je vais vous répéter, vous savez, c'est moi qui détiens la vérité et je viens vous apporter l'enseignement l'enseignement de Dieu, on va dire.
Alors, sinistre, parce que quand même les observateurs, Anne-Cécile, Vladimir aussi, vous tous, quand même, il y a une surprise, il y a un étonnement là-dedans. On se demande quelle était l'intention.
Sarkozy, il a un complexe messianique. Donc il faut qu'il apporte la vérité au monde.
Il le dit d'ailleurs, il y a des accents en vérité, la vérité. Voilà, enfin, ça rappelle le sermon, en vérité, je vous le dis.
Les prophètes.
C'est la méthode comme de Jésus, hein, je répète des histoires pour être bien sûr...
Mettez-vous bien ça dans la tête.
Voilà, mettez-vous bien ça dans la tête. Et effectivement, incontestablement, là une fois, c'est là qu'on voit que décidément c'est impossible de parler normalement de l'Afrique, incontestablement, Sarkozy vient de renouveler le langage diplomatique. Parce que jamais en diplomatie on s'adresse à un interlocuteur comme ça. J'attends, parce que Sarkozy prétend dire la vérité, parler toujours avec son cœur, est-ce qu'il va faire profiter M. George Bush, le président des États-Unis, ou son successeur, du même langage de vérité, avec autant de courage, n'est-ce pas? Est-ce qu'il aura autant de courage envers les puissants qu'il en a soi-disant envers des pays plus faibles?
Après les comptoirs coloniaux de l'ère coloniale, les comptoirs idéologiques de l'ère atomique.
Encore une fois, mon stylo pleure, à l'instar de l'encrunel, le suisse meurt, une mort violente, fut tiré par nos dirigeants voleurs. Ville vilain, voleur, voler nos dernières gouttes de sueur. Voilà le visage sombre, les légumes de l'Afrique à 7 heures. Seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, la fille se meurt, tu es pillé par nos dirigeants collaborateurs. C'est le seul mot pour qualifier ces adorateurs de Satan. Pourquoi filer notre sang, se comporter servilement? Pour mon intérêt personnel et national, c'est décevant. Je suis déçu, le sous le ciel sinistre, la pauvreté, c'est très. Ils vendent le pétrole du Congo, les beaux colons qui organisent nos guerres afin de mieux gérer les filons. Au Sénégal, les grandes l'eau, la télécom, le courant, t'es au courant, c'est courant. Notre économie, tu peux la comparer à un vieil au courant. Tu es par les mêmes héritiers, ils s'entretueront pour l'héritage. Qui te feront quoi, qu'est-ce pour le bien, la famille, du clan. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Déjà, ils nous imposent des systèmes politiques comme les mythes qui le rendent cyniques. Quand on donne un pouvoir, on t'y maintient tout ça l'unique. Tant que tu nous vends le pétrole, le café, le cacao, tu feras où? On va bosser sur ta dette, toi y'a très bon négro. On va dire toi, mais en joli à Paris. La France, la délivrance, beaucoup de wari wari. Toi signé papier du blanc, espagnol du chef blanc. Toi très bon négro. Tu comprendras quand tu seras grand. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. Le patrimoine n'existe plus, on l'a dilapidé. Il faut repenser tout à la base, révolutionner. SOS, SOS, Awadi lance un SOS. SOS pour ces terres qui se meurent, ces vies sans détresse. SOS pour toutes nos matières premières, pour toutes nos richesses. SOS pour que nos enfants ne vivent plus tous ce stress. Yes, make God bless Africa quand ce soit du caca. L'image est sale et puante, mais c'est la seule qui reflète le cas. Africa, on t'ausculte, mais ton diagnostic est délicat. La seule solution, c'est une révolution dans tous les cas. J'aimerais que ce texte soit une lettre adressée à tous nos présidents. Qu'ils comprennent que les jeunes paniquent et que le boom est imminent. Pensez à nous, pensez à vous, pensez à ceux qui viendront après nous. Pensez, agissez, sinon on le fera nous. À la limite, l'argent pour les planquer dans vos comptes en Suisse. Investissez-le dans vos pays, faites bosser vos fils. Méfiez-vous, méditez le syndrome Mobutu. Personne n'est à l'abri.
Des sentences définitives et globalisantes à forte teneur culturaliste, peut-on lire dans le quotidien Le Monde, un extravagant et incohérent débordement d'arrogance paternaliste, peut-on lire dans l'hebdomadaire Marianne. Il y a quand même eu des commentaires dans la presse française suite à ce discours du 26 juillet prononcé par le président de la République à l'université à Dakar. Alors beaucoup de voix, je le disais, on en a entendu, s'élèvent contre ce discours, le critiquent, en débattent. Parmi eux, celui qui est sans doute le plus écouté actuellement, c'est Achille Mbembe, qui est professeur d'histoire et sciences politiques à l'université de Midvaterstrand.
Mitwatersrand, voilà, à Johannesburg, et qui est l'auteur aux éditions Cartelade d'un ouvrage qui fait grand bruit, qui s'appelle La Post-Colonie. Agnès Fèvre, pour nous, a rencontré Achille Bembé sur la question de savoir, mais notre président, où est-il allé chercher tout ça?
L'idée selon laquelle l'Afrique serait restée à la porte de l'histoire est une idée très hegelienne. Hegel, le philosophe allemand du 19e siècle, le dit en des termes très crus dans son livre « La raison dans l'histoire ». Et d'ailleurs, des passages du discours de Monsieur Sarkozy à Dakar, à les lire, on dirait qui sont tirés directement de cet ouvrage « La raison dans l'histoire ». La même chose s'applique à ce que le président dit au sujet des paysans africains. Il suffit de lire le petit opuscule de l'administrateur colonial de la Fosse qui gouverna le Sénégal pendant quelques années au début de ce siècle. L'opuscule s'appelait « Le paysan nègre ». Les références dakaroises de Sarkozy en rapport au paysan nègre sont tirées de la Fosse. Le cycle infini, mythique, les forêts qui chantent, les ancêtres qui peuplent la brousse, cette espèce de théorie mi-bucolique, mi-cauchemardesque, qui fait effectivement partie de la vulgate raciste du 19e siècle, on ne peut pas utiliser cela pour comprendre les transformations actuelles. Les connaissances que nous avons sur l'Afrique, à la conscience desquelles la France a énormément contribué, à travers son trésor, ses recherches, elle nous dit que tout cela est assez faux.
Donc là, en termes de discours, l'ethno-philosophe Nicolas Sarkozy, vous le nommez ainsi, ne s'affranchit pas du tout de ce qu'on a déjà entendu, justement. Là, en termes de discours, on n'est pas dans la rupture.
Non, on n'est pas du tout, en termes de discours, dans la rupture. On est dans la régression. Le président ne connaît pas bien notre histoire. Il faudrait qu'il l'apprenne un peu mieux.
Le président ou son conseiller spécial?
Le président Sarkozy ou Monsieur Henri Guénaud, qui a écrit son discours et qui s'en félicite, qui pense que c'est un discours historique. Le problème, c'est que il s'expose de ce fait à la contestation. Si l'on se limite au discours de Dakar, ce sont des schémas hérités de l'ethnologie coloniale du 19e siècle.
Mm-hmm. Alors, il arrive à Dakar quand même en énonçant à plusieurs reprises le terme de faute pour désigner le colonialisme. Est-ce que ça, c'est une rupture? Et puis surtout, comment ça a été accueilli par les populations et les élites africaines?
Oui, alors... Il dénonce la faute. Il veut dire que la colonisation, c'était au fond un péché véniel, que c'était pas un péché capital. Une petite erreur de parcours et pas vraiment cette monstruosité dont parle tant de gens. Pour ceux qui en ont fait l'histoire, le colonialisme, la colonisation, fut un crime. Elle reposait fondamentalement sur une démarche raciste qui consistait à diviser les espèces humaines en celles qui méritent de vivre et celles dont la vie, on peut plus ou moins la dissiper.
Avec notamment le code de l'indigénat?
Le code noir sous l'esclavage, le code de l'indigénat sous la colonisation, les travaux forcés, la ségrégation raciale, les manières de faire la guerre aux populations indigènes, la colonisation, le projet colonial est un projet criminel. Et donc pour moi, dire de la colonisation qu'elle était une faute participe en fait d'un effort assez clair de réhabilitation du colonialisme ou de révisionnisme qui est une des tentatives du nouveau conservatisme de droite en France.
La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique. Elle n'est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est pas responsable des dictateurs. Mais la colonisation fut une grande faute qui détruisit chez le colonisé l'estime de soi et fit naître dans son cœur cette haine de soi qui débouche toujours sur la haine des autres.
C'est vrai que le colonialisme n'explique pas tout. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous l'ont toujours affirmé. Et donc, dans un sens, nous n'avons pas besoin du président pour nous le rappeler. Sur un autre plan, le président ne peut dire de tels mots que si, simultanément, il met en parenthèse le soutien, je dirais, systématique que les gouvernements français ont accordé aux régimes les plus brutaux, les plus dictatoriaux et les plus corrompus en Afrique depuis 1960. Le président ne peut parler en ces termes que s'il fait fi de ce qui apparaît clairement aujourd'hui comme l'implication assez indirecte de la France dans le génocide au Rwanda. Il ne peut parler en ces termes que s'il met en parenthèse le fait que la France profite quand même de ses rapports économiques avec le continent, qu'elle a vendu de 1994 à 2002 pour à peu près 34 milliards d'euros d'armes à des régimes qui ensuite les utilisent pour réprimer leur peuple, que l'exportation du pétrole congolais, gabonais, camerounais, tchadien, l'exportation du bois, des essences précieuses d'Afrique centrale, l'exploitation de l'uranium au Niger qui approvisionne pour 50% les centrales françaises, s'il fait fi de tout cela, je crois que la France est impliquée dans le maintien de régimes politiques en Afrique qui ont systématiquement travaillé contre leur peuple. Et si on prend ça en compte, on ne peut pas dire que la colonisation n'explique pas tout.
Alors, sur l'aspect économique, Nicolas Sarkozy a déclaré lors de son séjour à Bamako en mai 2006, lorsqu'il était venu présenter sa loi sur l'immigration choisie, que la France n'avait pas besoin économiquement de l'Afrique. Alors, est-ce que ça c'est vrai aujourd'hui? Et puis, comment ont évolué les entreprises françaises en Afrique sur ces 10-15 dernières années, par exemple?
Mais voilà le genre de déclaration à l'emporte-pièce qui ne repose pas du tout sur la vérité. Après tout, les relations économiques entre la France et l'Afrique bénéficient plus à la France qu'à l'Afrique. D'après les chiffres du ministère français des Finances lui-même, en 2005, le solde France-Afrique était excédentaire au bénéfice de la France pour plus de 3 milliards d'euros. S'il est vrai, comme le dit le président, que la France n'a pas besoin de l'Afrique sur le plan économique, pourquoi est-ce que les entreprises françaises ne ferment pas la porte et vont chercher ailleurs? Je crois que c'est un discours dangereux. Je crois pas que l'on puisse développer des rapports de sincérité, de progrès, à partir de telles prémices.
Est-ce que justement sur le continent, les amitiés de Nicolas Sarkozy avec de grands industriels comme Bouygues ou Vincent Bolloré, dont le groupe donc est présent sur plus de 40 pays sur le continent africain, dans le secteur des transports par exemple, est-ce que cette amitié inquiète?
Oui, ces liens sont inquiétants parce que Bouygues, Bolloré, Total et les autres fonctionnent en Afrique les compagnies concessionnaires que l'on avait au Congo, dans l'est du Cameroun, au début des années 20. Et donc, ce sont des compagnies qui n'ont aucun intérêt, effectivement, à casser le monopole qu'elles ont dans les secteurs dans lesquels elles interviennent. Or, effectivement, on a besoin aujourd'hui d'ouvrir ce marché africain afin de sortir de cette économie de cartel qui est typique effectivement du rapport néocolonialiste. Et l'arrimage, disons les amitiés du président avec les capitaines de ces nouveaux cartels ne prélude pas positivement à la rupture qu'il proclame ailleurs.
Baril de pétrole, baril de sang, que nous les marionnettes aux yeux des puissants. On répète ça aux enfants, regardez, apprends. Les coups de machette dans les camps d'innocents. La démocratie du blague, une bande avec des costumes. On est des artisans, entre le marteau et l'enclume. Existe en maison, dans le nord venant du sud. Et vu que la faim est plus forte, les pigeons qu'on plume. Politique bise, tu bloumes dans ta bouche. Ton modèle c'est bouche, politique bouge. Tu parles dans le vent, tu craches sur les gens. Tu nous mens sciemment, tu n'as aucun sentiment.
Politicien, aïe à la mer, aïe à la mer, aïe à la mer. Politicien, aïe à la mer, aïe à la mer, aïe à la mer. Aïe à l'eau, aïe à l'eau, aïe à l'eau, aïe à l'eau.
Politique needs blood. Politique needs cries. Politique needs human beings. Politique needs.
Pas au chef d'état mais au père que vous êtes. Nous sommes vos enfants pour que l'humanité prospère. Soyez honnêtes, le monde de demain ne tient qu'à nous de le construire ou de le subir pour comprendre un peuple. Salue d'abord ton voisin à l'avenir. Dans un monde où les balles ont plus d'influence qu'un putain de vote, faut pas qu'on se vôtre. Aïe, politique kills. On rêve tous d'une paix. On rêve tous de la paix. 2007.
Nous ne voulons que des choses claires et nettes.
Claires et nettes.
Mokobé.
Mokobé.
Fumala. Amadou Mariam.
Amadou et Mariam.
Ikenja Fakoli.
Manichao.
Les politiques qui gèrent les choses de façon gâchée.
La paix.
Pour tout le monde.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, jamais il ne s'élance vers l'avenir. Dans cet univers où la nature commande tout, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Fin de citation, cette phrase, il faut bien le dire, sera à ranger à côté de celle du bruit et l'odeur. Du précédent président de la République. Alors après les analyses d'Achille Bembé, celle d'Elika Mbokolondo a pu prendre parmi tous les universitaires, chercheurs, historiens africains, parce qu'il y a des historiens africains, n'en déplaise au tabellion de notre président, et parmi eux Elika Mbokolo, qui est écrivain, historien du Congo, de la République démocratique du Congo, que vous entendez d'ailleurs de temps en temps sur RFI dans son émission Mémoire d'un continent, et que nous avons rejoint, contacté en Afrique.
Je ne suis même pas à Kinshasa, je suis à 200 km à l'ouest de Kinshasa.
Beauté, papa.
Beauté. Beauté, hein.
Bon, bonjour, Elika Mbokolo.
Bonjour.
Alors, on est là autour du discours du président de la République française. On est avec Anne-Cécile Robert, on est avec Solo Soro, on est avec Vladimir Cagnolari, et on est en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé ce 26 juillet à Dakar. Quelles étaient les intentions de Nicolas Sarkozy? Comment vous avez perçu, vous, ce discours?
Bon, je crois d'abord qu'il a dû y avoir un problème d'information sur le lieu, c'est-à-dire Dakar, mais aussi cette université qui s'appelle Cheikh Anta Diop, et donc qui renvoie à une personnalité intellectuelle qui est d'abord un historien et dont les prises de position historiques sur l'histoire très ancienne et sur l'histoire récente, c'est l'homme qui a écrit « Tempête sous les tropiques », sont très connus de tout le monde, et donc il y avait une sorte de provocation, peut-être d'agression, d'aller dans cet endroit-là, tenir le discours que le président Sarkozy a tenu. Ça, c'est donc la première chose qui m'a surpris. La deuxième chose, c'est le fossé quand même considérable entre deux choses. L'une, c'est que la France est depuis le milieu des années 60 l'un des pays où les études sur la colonisation ont été développées à une très très large échelle, qui fait que nous connaissons bien aujourd'hui ce qu'a été la colonisation française. Et de voir que le président de la République, qui est un homme jeune certes, qui ne connaît pas le régime colonial, mais cultivé par ailleurs, tient un discours qui fait penser, je ne sais pas, au livre de Madame Bruno sur le Tour de France de deux enfants, ou d'Ernest Lavis, on dirait qu'il y a une sorte de retard d'à peu près un siècle, alors que la connaissance dont on dispose en France aujourd'hui est beaucoup plus avancée et permettrait un point de vue qui soit à la fois nuancé et très bien informé. C'est ces deux choses-là, et puis la troisième, c'est que en effet, la jeunesse africaine aujourd'hui, en particulier à Dakar, est une jeunesse qui connaît son histoire, bien sûr, mais qui n'est plus branchée directement sur les problèmes de la colonisation. C'est une jeunesse qui est, si on peut dire, mondialisée, qui regarde aussi bien du côté de l'Amérique du Nord ou du Brésil ou de l'Asie. C'est une jeunesse qui est impliquée dans un travail local. Elle a combattu le système de parti unique ou du pseudo-parti unique. Elle est engagée dans toutes sortes d'actions. Et ce discours était réellement en décalage par rapport à cette jeunesse qui, d'ailleurs, ne supporte pas de ses propres professeurs qui soient en position de donneur de leçons sans recevoir en contrepartie l'interactivité des auditeurs. Donc tout ça a été, sur ces trois points, il me semble, très mal ficelé et vraiment très malvenu.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles.
C'est vraiment très en décalage par rapport à l'état de l'esprit aujourd'hui. Bon, j'ajoute quand même que venir à Dakar pour dire aux Africains que l'homme africain ou l'homme noir n'est pas entré ou ne s'est pas entré dans l'histoire, c'est un peu fort de cachet, je dirais. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a rupture ou non? Les Africains espéraient une rupture avec la France-Afrique. Pour vous, il y a rupture ou pas? Est-ce que c'est la France-Afrique qui continue, la SARC-Afrique?
Je crois qu'il faut là... Moi, je serais assez prudent, parce que la France-Afrique, je ne suis pas sûr que et la France la désire et les Africains la désirent. En tout cas, les structures profondes de cette France-Afrique sont en train d'être remises en question, parce que même si ces relations de type néocolonial persistent, il y a d'autres partenaires qui entrent en ligne de compte, il y a d'autres horizons qui s'ouvrent pour les Africains. Quant à la SARC-Afrique, je crois que c'est quand même un peu tôt pour le dire. Moi, j'enseigne dans des écoles françaises. Il me semble que la jeunesse française en France a un autre rapport avec l'Afrique que la jeunesse française de l'époque gaulienne, pompidolienne ou autre. Et donc, je ne pense pas que on puisse reconstituer comme ça les choses à l'identique. J'ai même l'impression que les Africains aujourd'hui recherchent avec la France autre chose que la reproduction de modèles qui sont totalement dépassés dans l'économie mondialisée aujourd'hui. Donc là, je crois que c'est aussi un faux pas, une erreur qu'il lui faudra d'une manière ou d'une autre rectifier.
Vous êtes sûr de ça? Vous pensez qu'il va rectifier?
Je pense, oui. Ah non, je ne suis pas sûr qu'il va le rectifier. Ah, bon. Je crois qu'il est dans son intérêt qu'il le rectifie.
D'accord, ben, on va lui passer le message. Ok, merci beaucoup, Ilika.
Merci et bonjour à mes trois amis qui sont avec vous.
Merci, pas le pas. Merci. Merci, Ilika.
Ok, au revoir.
Au revoir, merci beaucoup. Bonne conclusion.
Conclusion.
Conclusion sur
non, moi je crois que c'est maintenant à l'Afrique d'assister des personnes comme Sarkozy. On va le prendre par la main. On va l'amener à Bamako, montrer comment Tiken Diafa Koli construit avec sur fonds propres son propre studio pour donner sa chance à des jeunes artistes musiciens africains en général et maliens en particulier de monter un festival sans subvention aucune, sans les subventions institutionnelles de France, pour que l'action culturelle, la diffusion, la création et la diffusion de la musique se fasse sur place avec des Africains. Je pourrais rallonger les exemples. On peut l'emmener aussi au Mozambique avec, comment elle appelle déjà, j'ai oublié son nom, Valadas. Sandro Valadas, qui fabrique des cordes de guitare avec des câbles de vélo, qui fabrique des xylophones avec des dessins de gouttières, et bref, fabrique son propre luthier avec d'autres copains, fabrique des tas d'instruments aussi divers et variés que possible, et forme des artistes à la composition, à la création artistique. Tout ça, au Mozambique, avec des Mozambicains, sans aucune subvention d'État, sans aucune subvention de la coopération. Pour que M. Sarkozy voit que cette Afrique, cette jeunesse à laquelle il allait parler, elle fait prendre en main, elle sait inventer son quotidien, et elle sait rêver surtout. Elle sait rêver. Vladimir pourra parler en long et en large de l'argentomologue.
C'est quoi? C'est quoi?
Je ne sais pas si c'est l'exemple. Je serais mieux ça. Seulement, prenez l'exemple de la culture, là, mais c'est vrai que enfin, comme les économies africaines sont en grande partie informelles, du coup, l'innovation, très souvent, elle doit se passer dans l'informel. Ce qui fait que finalement, beaucoup de choses qui sont vues ici avec des bouts de ficelle paraissent pas forcément sérieuses, sont pas prises au sérieux, mais c'est déjà énorme d'arriver à monter tous ces petites business, toutes ces petites bricoles qui permettent aux gens de vivre en ville. Et Dieu sait si l'exode rural continue en Afrique, et je crois bien qu'aujourd'hui même plus de la moitié de la population africaine est dans les villes. Donc on n'est plus dans l'Afrique rurale avec des gens qui répètent le même et éternel geste au village. Tous ces gens-là doivent inventer leur métier puisque justement ils sont pas pris en charge. L'État n'en a pas les moyens, les fonds de la coopération existent, mais bien souvent, on n'en voit pas forcément la couleur, en tout cas pour la plupart des gens. Donc du coup, les gens sont en pleine innovation permanente. D'ailleurs, je pense que s'il y a un continent qui est celui de l'innovation, c'est l'Afrique. Alors on peut prendre l'exemple de l'argentomologue, mais qui est un exemple.
C'est quoi
rigolo. En fait, c'était quelqu'un que tu avais rencontré avec Sylvie Coma, je crois, oui, à Abidjan, qui avait inventé la science de l'acquisition de l'argent et qui du coup professait comme ça sur une place publique et qui faisait des polycopiés de ses cours de science de l'acquisition de l'argent, qui avait développé beaucoup de théorèmes. Bon, ça, par exemple, c'est un exemple anecdotique et drôle, mais c'est vrai que et en particulier dans la jeunesse, je veux dire, les gens font des études, essayent de trouver du boulot en permanence, se lèvent le matin sans avoir de boulot, mais ils vont quand même essayer, pour ne pas rester à la charge de leurs parents, en ville en tout cas, de trouver, ça peut être, qu'est-ce que t'as, tu cherches un portable, je connais un gars qui en a un, bon bah je vais toucher une petite commission dessus. Alors bien sûr c'est pas du boulot, mais quand il n'y a pas de boulot, il faut se faire du boulot. Donc enfin, tout ce dynamisme-là, il existe, et en tout cas ce qui est clair c'est que ce discours-là, bon, on peut le ranger, le mettre de côté, il est nul et non avenu pour la jeunesse africaine. Enfin, c'est-à-dire qu'en tout cas, il vaut mieux pas qu'elle y cherche de l'inspiration, parce que comme le disait aussi Edika, et tu le disais aussi, la jeunesse africaine passe pas son temps à ressasser la colonisation. Donc c'est très bizarre de vouloir dire on tourne la page et puis on revient sur toute cette histoire de manière plus que discutable. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, et absolument certain, c'est qu'il y a une grande méconnaissance de l'Afrique. Et d'ailleurs, Alpha Omar Konaré, qui est celui qui préside l'Union africaine, donc l'équivalent de notre Union européenne, finalement, même si elle n'a pas encore la même efficacité, etc., elle est encore en construction, cette Union africaine, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi aussi, je vais parler franchement à M. Sarkozy, c'est que il faudrait qu'il apprenne un petit peu à connaître l'Afrique. Et comme tu dis, Solo, il faudrait qu'on l'amène un peu par la main pour qu'il ait plus conscience des réalités, simplement.
Pour finir, Anne-Cécile, il y a le dynamisme, la débrouille, l'énergie de l'Afrique, mais il y a aussi les problèmes de la politique du Fonds monétaire international imposé à l'Afrique. Il y a aussi le problème de la dette. Il y a aussi quand même ces grandes pressions qui empêchent l'Afrique de se développer.
Ben c'est peut-être pour ça finalement que Sarkozy ne pouvait pas mettre en pratique ses ambitions de rupture, enfin disons les discours de rupture qu'il avait professés pendant la campagne électorale, c'est que ça impliquerait pour lui de remettre en cause tout un ordre économique mondial dont la France profite d'une certaine manière, mais dont surtout l'Afrique est globalement victime, puisque selon la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, il y a plus d'argent aujourd'hui qui quitte l'Afrique que d'argent qui y va. Donc, soit dit, même si on tient compte de l'aide, etc., en fait, le pillage continue. C'est-à-dire, il y a plus de richesses qui quittent l'Afrique sous toutes ses formes pour aller vers le nord que de richesses qui vont du nord vers le sud. Et si on veut rompre, il faut repenser l'ordre mondial, repenser les rapports économiques, et certainement que Sarkozy n'est pas le mieux placé pour le faire.
Merci à tous, merci à Anne-Cécile Robert du Monde Diplomatique, à Soro Solo, Vladimir Cagnolari, merci aussi à Guillaume Thibault, Achille Bembe, l'interview qu'il nous a donnée était relevée par Agnès Fèvre, merci à Ilika Mbokolo, ainsi qu'à la Sonothèque de RFI. Les deux articles d'Achille Mbembe, Sarko, Hegel et les Nègres et l'Afrique de Nicolas Sarkozy sont consultables sur Internet, ainsi que le livre de la Postcolonie publié aux éditions Cartala en 2000. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission La Place, j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. Vous pouvez y réécouter cette émission, ainsi que des quantités de numéros de Là-bas, j'y suis. À la technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Bénédicte Roise, et Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry. Christophe Imbert attend, comme chaque jour, vos messages au répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.